Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous, bonsoir Nathalie, bonsoir Théo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Il fait beau en ce moment en plus. Super. Aujourd'hui, c'est ouais. Magnifique. Il paraît que ça va durer toute la semaine. Donc on va essayer d'ensoleiller ce début de semaine. Voilà, on revient après 15 jours de vacances, plus un week-end de 3 jours. Donc j'espère que vous avez profité pour faire des bons petits plats à tout le monde et que vous avez pu partager des recettes ensemble. Ce soir, on a trouvé des recettes toujours aussi délicieuses et faciles à réaliser. Nathalie vous interviendra sur de l'histoire, l'origine, d'ingrédients, voilà.
Tout ce qui a des termes un peu compliqués, c'est pour moi.
Voilà, c'est ça, parce que moi j'ai un petit peu de mal à le dire, alors c'est toi qui le dis, c'est très bien comme ça. Déjà c'est compliqué pour moi des fois, donc on est en grande forme. Et puis peut-être qu'on vous donnera je vous donnerai des astuces si vous êtes toujours à l'écoute, même si vous ne l'êtes pas, je vous donnerai des astuces de toute manière. Alors voyons ensemble le menu de ce soir, qui est des recettes toujours aussi faciles, rapides à réaliser et surtout délicieuses.
Et de saison.
On insiste là-dessus, sur les saisons. Alors, on est dans les asperges, donc ça tombe bien, on va faire une crème d'asperges blanches. Donc pour cela, il vous faudra 750 g d'asperges blanches, 90 g de beurre, 30 g de farine, 2 échalotes, 2 oignons, 15 cl de crème fraîche, 900 cl de lait. 9.
T'as dit 900, je crois.
Non, 900, non, c'est pas possible. 9 centilitres, ça suffit amplement. C'est peut-être parce
je que. Je confirme que t'as dit 900.
Ah, bourrique. Ils sont deux contre moi, c'est pas gentil du
c'est
tout.
C'est pas juste.
Bon, c'est 9.
On a le replay. Hein.
Donc, c'est 9 centilitres, parce que 900 litres, vous aurez du mal à en trouver. Donc, 9 centilitres, je vais y arriver. De la ciboulette ciselée et. Du sel et du poivre. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un économe, un couteau, deux casseroles, un mixeur, une passoire et un saladier. Ensuite, on passera aux aiguillettes de poulet au citron. À la crème de citron, exactement. Donc pour ça, vous aurez besoin de 2 oignons, 2 pincées de sel, 2 de poivre, parce qu'on va relever un petit peu cette crème. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 750 g d'aiguillettes de poulet, et 30 centilitres de crème et 2 citrons juste pour le jus. Et puis au niveau matériel, pas grand chose, mais quand même un peu. Donc un bol, un couteau, une cuillère en bois, une sauteuse et une fourchette. Et puis on va aller se régaler après avec le dessert, avec un cheesecake chocolat praliné. Je vous ai déjà, Nathalie vous a mis sur Facebook et sur les réseaux sociaux différentes choses. Donc il faudra ça se fasse passer en 3 parties différentes. Donc vous avez la croûte.
Ce que tu appelles la croûte, moi j'appelle ça le biscuit.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc la croûte de chocolat, ce qui va nous servir de fond. On aura besoin de 250 g de sablé, 40 g de cacao en poudre, 100 g de beurre, 25 g de sucre. Pour ce qui est de la crème, donc l'intérieur du cheesecake, on va avoir besoin de 600 g de fromage à tartiner, 120 g de crème épaisse entière, 110 g de sucre, 15 g de fécule de maïs, 3 œufs et 250 g de chocolat praliné. Et puis pour ce qui est de la ganache, donc qui va être au-dessus, eh bien, on va avoir besoin de 100 g de chocolat corsé. Donc, on vous a marqué 64%, mais si vous avez plus, c'est encore mieux. Il faut vraiment qu'il soit fort en goût pour qu'on ait différents goûts en bouche. 100 g de crème liquide. Et puis, côté matériel, on aura besoin d'un mixeur, d'un moule à fond amovible. Donc, si vous avez un cercle, c'est encore mieux. Évidemment, si vous avez un cercle, c'est mieux avec une plaque allant au four, 3 saladiers, une cuillère en bois et un fouet et une casserole. Voilà, et avant de commencer, puisqu'on vous a donné toutes nos recettes, enfin les intitulés de nos recettes, et les ingrédients, et ainsi que le matériel, et bien moi je vous propose, avant de commencer, une petite pause et on se retrouve tout de suite.
Salut, c'est Pierre Demar sur Infini Radio.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous vous revoici pour la première recette, à savoir la crème d'asperge blanche. Mais avant l'explication de la recette, Nathalie, j'aimerais que tu nous parles de l'asperge justement, qui est en pleine saison.
C'est la saison. C'est l'asperge qui est une plante de la famille des Asparagaceae.
À vos souhaits.
À mes souhaits. Originaire de l'Est du bassin méditerranéen, connue des Romains, elle est cultivée comme plante potagère en France depuis le XVe siècle. Le terme désigne aussi ses pousses comestibles qui proviennent de rhizomes, d'où partent chaque année des bourgeons souterrains ou turions qui donnent naissance à des tiges s'élevant entre 1 et 1,50 m. Les asperges sont depuis longtemps utilisées comme légumes et plantes médicinales en raison de leur saveur délicate et leurs propriétés diurétiques. Une fresque égyptienne datant de 3000 avant Jésus-Christ la montre en offrande aux dieux. Elle est également appréciée pour son goût délicat par les Grecs et les Romains qui la cultivent dans des fosses et la mangent fraîche en saison de récolte et sèche en hiver. Elle est révérée comme aphrodisiaque en raison de sa forme comme dans le conte arabe Les Mille et Une Nuits. Elle est cultivée dès le XIe siècle à Byzance. L'Europe occidentale semble avoir ignoré l'asperge pendant tout le Moyen-Âge. La culture de l'asperge apparaît en France au XVe siècle, sa réimportation s'étant probablement faite par la Flandre. La ville de Marchienne était autrefois un centre important de cette culture et l'asperge de Marchienne, variété locale, dérivant de la variété de Hollande, a très certainement été introduite par la Belgique. La Quintigny parvient ainsi à en servir à Louis XIV en décembre, grâce à une technique de forçage. Les producteurs recouvrent les pousses par des coiffes pour les protéger des parasites et retenir la chaleur, découvrant ainsi l'asperge blanche, puis remplace bientôt les coiffes par le butage. On la considère comme la reine des légumes depuis au moins le XVIe siècle, tant elle est appréciée à la cour de France, où elle est appelée le légume royal, ou le printemps en tige, ou encore l'ivoire à manger. Prisée par Madame de Pompadour pour cette réputation d'aphrodisiaque, ses extrémités sont appelées pointes d'amour à son époque. Et dans les années 1870, la culture de l'asperge se développe en Alsace et dans la vallée de la Loire. Elle est alors considérée comme un légume de luxe, figurant par exemple au menu des passagers de première classe du Titanic. Elle est aujourd'hui largement cultivée dans de nombreux pays, sur tous les continents.
Merci Nathalie. On va passer maintenant à la recette. Alors, je vous en rappelle les ingrédients. Pour cela, il vous faudra 750 g d'asperges blanches, 90 g de beurre, 30 g de farine, 2 échalotes, 2 oignons, 15 cl de crème fraîche, 9 cl de lait, de la ciboulette ciselée, du sel, du poivre. Et pour le matériel, il nous faudra un économe, un couteau, deux casseroles, un mixeur et une passoire et un saladier, bien évidemment. Vous comptez pour cette préparation 20 minutes de préparation et 50 minutes de cuisson. Alors, on va déjà commencer par nettoyer les asperges et puis dans une casserole, on va les faire cuire dans 1,5 litre d'eau bouillante. Donc, votre casserole, il faut qu'elle soit assez grande. Dès que l'eau bouillante, vous mettez du sel, puisqu'on sale toujours les asperges, c'est ce qui va permettre aussi aux asperges d'enlever
les impuretés, c'est ça.
Les impuretés et on va les cuire, mais le sel va en fin de compte désgorger aussi. Elles vont plus avoir trop d'eau. Qu'elles sont quand même gorgées d'eau. Et ça, on va faire cuire ça pendant 20 minutes à eau bouillante, d'accord ? Donc, eau frémissante, vous comptez 20 minutes. Une fois qu'elles sont cuites, on va les égoutter. Et puis, et surtout, on va garder le jus. Ça, c'est important, parce que comme ça, on fera des économies d'eau, ce qui n'est pas mal en ce moment. Et on va prendre, nous allons donc peler et émincer les oignons, les échalotes. On va faire fondre dans le beurre, dans une casserole, le beurre, et faire revenir un petit peu les oignons et les échalotes pour qu'ils roussissent un petit peu, pour qu'ils prennent un petit peu de sucre. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, vous allez saupoudrer, quand c'est bien un petit peu coloré, vous allez saupoudrer de farine et faire cuire avec la farine 2 minutes à peu près, ce qu'on appelle un roux, mais c'est avec un roux échalote oignon. Donc ça va bien être enrobé, faire revenir donc bien 2-3 minutes sans arrêter de remuer parce qu'il ne faut pas que ça brûle au fond. Et une fois que les 2 minutes sont passées, vous allez verser votre eau de cuisson des asperges dedans, donc ça va être légèrement épaissi, mais pas trop non plus.
On met pas toute l'eau, on en met au fur et à mesure un petit peu, on met pas les 1,5 litre.
Si tu peux,
mais
de toute manière, au bout d'un litre et demi, au bout de 20 minutes, tu n'en auras plus un litre et demi, ça sera évaporé. Et puis, on va couper les asperges en petits tronçons. Et puis, on va les ajouter à la préparation qu'on a faite, donc dans l'eau. Et on va les refaire cuire 10 minutes à feu doux cette fois-ci, donc tranquillement. Et puis, quand les 10 minutes sont passées, on retire la casserole du feu, on laisse tiédir et puis on passe le mixeur. Voilà. C'est, et puis, on rajoute un petit peu de lait ou de crème fraîche, si vous voulez. Moi, j'aime bien la crème fraîche parce que c'est onctueux. Le lait, si vous le voulez, pour que ce soit moins riche, sachant que l'asperge n'est pas riche du tout. Hein, donc, voilà. Et donc, vous pouvez vous permettre d'une cuillère de crème fraîche. Vous allez saler et poivrer, ajouter la petite ciboulette ciselée par-dessus. Et puis, pour finir, vous allez incorporer tout doucement de la crème fraîche. Hein, puisque là on a rallongé avec du lait, mais vous pouvez très bien mettre la crème fraîche en fin de cuisson, l'incorporer sans faire bouillir, ça c'est important, hein, ne pas faire bouillir. Et puis vous servez ça tout de suite, et puis parsemé de ciboulette comme je vous l'ai dit.
Est-ce que ça doit avoir la consistance d'une soupe un peu?
Oui, parce que c'est une crème de...
C'est crème... comme un velouté.
Oui, c'est ça. C'est un velouté. Moi, je l'ai appelé la crème d'asperge, mais c'est un velouté. À partir du moment où vous avez mixé et qu'il n'y a pas de morceaux, ça s'appelle un velouté. Une soupe, c'est encore différent.
Oui.
Voilà. Et là, on n'a pas de pommes de terre. Voilà, et on va avoir du lait et de la crème fraîche, donc on peut appeler ça un velouté, et même une crème puisqu'on a de la crème fraîche. Voilà, alors je pense qu'on va peut-être faire une pause avant, et puis on vous expliquera...
J'ai le temps d'expliquer...
L'échalote, l'échalote. T'as peut-être nous dire quelque chose, ouais, sur l'échalote. Eh bien alors, vas-y Nat.
Alors, l'échalote de Sainte-Anne, c'est une plante bulbeuse de la famille des... Attention, je prends mon envol. Amaryllisacée, je l'ai presque bien dit, cultivée comme plante condimentaire et potagère. Le terme désigne aussi le bulbe lui-même, qui fait partie depuis longtemps de la gastronomie française. Au Québec et au Nouveau-Brunswick, qui est une contrée du Canada, elle est appelée échalote française, le mot échalote étant plutôt utilisé pour nommer la cébette. L'échalote est parfois considérée comme une espèce à part, parfois comme une simple variété d'oignon. Le foyer d'origine de l'échalote serait situé en Asie centrale, donc en Iran, et de nombreuses espèces apparentées y existent encore à l'état sauvage, mais aucune échalote sauvage n'a jamais été décrite.
Ben merci Nathalie pour ces infos. Ben maintenant on a le droit à une pause et puis on passera au plat principal. À tout de suite.
Parc Babyland Amiland, 34 attractions.
Non, maintenant c'est Parc Winoland.
Parc Winoland?
Parc Winoland, 34 attractions. La grande roue, le voltigeur, la montée fantastique, le slalom, la bûche dansante, le pteranodon, la coccinelle géante, la rivière canadienne.
Parc Winoland, à 30 km au sud de Paris, ouvert tous les jours dans l'Essonne, au cœur de la forêt de Rougeau. Winoland.fr, winoland.fr.
Winoland.fr.
Winoland, la magie de l'amusement.
En famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir. Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent. Ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Passé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Tarder les larmes est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. D'exister mais au moins j'essaye. J'ai le chronomètre dans la tête.
minute. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent?
Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière.
Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil.
Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire. Mais je suis sans fond.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici pour la seconde partie de notre émission pour le plat, à savoir les aiguillettes de poulet à la crème de citron cette fois-ci. Alors c'est pas une soupe, c'est une sauce. Et puis là Nathalie, tu vas pouvoir peut-être nous éclairer nos lumières un petit peu sur les différents morceaux parce que on sait pas forcément tout sur le poulet.
Ouais, les différents morceaux de poulet. Alors il y a la poitrine tout d'abord. Il y a le filet. Alors, le filet, c'est la masse pectorale appelée communément le blanc. Voilà. L'aiguillette, c'est de fines tranches taillées dans le sens de la longueur dans le filet interne. L'escalope, tranche de filet sans la peau. Le filet mignon, c'est un filet interne situé le long de la cage thoracique. Le suprême, c'est un filet plus la peau et plus un manchon de l'aile. Et pour les morceaux de l'aile ou de la cuisse, il y a l'aileron qui est le deuxième segment de l'aile, le manchon qui est le premier segment de l'aile, l'ossobuco de poulet, tranche de cuisse avec l'os, le haut de cuisse, donc c'est le premier segment de la cuisse, le pilon c'est le deuxième segment de la cuisse, et enfin il y a la cuisse, c'est le haut de la cuisse plus le pilon.
Voilà, comme ça, quand vous irez chez votre volailler ou chez votre poulet, vous saurez exactement quelle partie vous pourrez prendre pour telle et telle recette. Voilà, merci pour avoir fait ces éclaircissements, parce que c'est pas toujours évident,
non,
même si
c'est
une petite bête. Il y a différents thèmes, et là vraiment, je pense que les gens ont, c'est bien de savoir ça.
Oui.
C'est bien de savoir ça. Voilà, surtout quand on achète et qu'on évite de se faire avoir sur certains produits. Voilà, ça peut arriver. Alors passons à la recette. Donc je vous en rappelle un petit peu les ingrédients et le matériel. Pour cela, donc il vous faudra donc pour notre recette donc d'aiguillettes de poulet à la crème de citron, il nous faudra deux oignons, deux pincées de sel et deux pincées de poivre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 750 g d'aiguillettes de poulet, 30 centilitres de crème fraîche, 2 citrons juste pour le jus, un bol, un couteau, une cuillère en bois, une sauteuse et une fourchette. Pensez qu'il vous faudra 20 minutes de préparation. Donc là, on n'est pas trop mal. 20 minutes, c'est bien, c'est correct. Et on aura 40 minutes de cuisson normale. Ça cuit tout doucement, un petit peu. Oui, ça cuit très, très doucement. Donc, dans une première partie, on va déjà mettre donc dans un bol la crème et le jus de citron que vous aurez pressé préalablement.
J'ai une question.
Oui,
dis-moi. Ça commence, hein. Est-ce que ça ne fait pas tourner la crème, le jus de citron ?
Non, c'est pour ça qu'il faut mélanger rapidement.
D'accord.
Hein, donc, on mélange, vous prenez un petit fouet ou une fourchette, ça suffit. Vous ne le versez pas d'un seul coup, vous versez petit à petit. Tu as raison de le préciser parce que moi, je ne fais pas forcément attention à tout ça. Parce que quand je le fais systématiquement. Quand je l'écris, c'est plus compliqué parfois. Et puis, donc, vous rajoutez une pincée de sel et une pincée de poivre. Vous pourrez après rectifier l'assaisonnement si vous voulez. Donc, et ça, vous le mettez de côté.
Et c'est à froid.
Et c'est à froid, on est bien d'accord. Donc ensuite, on va dans une sauteuse, on va y mettre un petit peu d'huile et on va y mettre les oignons émincés, évidemment. Et qu'on va faire revenir une à deux, trois minutes de façon à un petit peu leur donner un petit peu de couleur. Et puis on va ajouter les aiguillettes. Alors les aiguillettes, ben vous les faites roussir de chaque côté, hein, ben bien revenir. Et on va saler de nouveau, donc avec le sel et le poivre qui vous restent. Et on va faire revenir à feu vif dans un premier temps. Et puis on va laisser cuire à couvert 10 minutes à feu doux. Donc dans un premier temps, on fait revenir à feu vif, de façon que ça prenne de la couleur et saisir la viande. Et puis dans un deuxième temps, 10 minutes avec le couvercle à feu doux. Donc à feu très doux. Ça ne sert à rien que vous mettiez... voilà, je dirais qu'à la limite, moi j'ai du gaz, donc je vais en dessous du plus court. Du plus petit, vraiment feu très doux, très très doux. Faut que ça bulle, mais pas trop. Après, avec une fourchette, vous retournez de temps en temps vos aiguillettes, hein, pour qu'elles soient colorées et cuites des deux côtés. Et puis, vous allez recuire une fois que vous avez retourné, ou vous allez les recuire 5 à 10 minutes, donc de façon qu'elles soient cuites partout. Mais si vous couvrez, il n'y a pas besoin. À la limite, vous secouez votre sauteuse avec le couvercle dessus, vous la secouez comme ça. Les aiguillettes, elles vont se retourner automatiquement. Hein, mais il faut que vraiment elles soient bien enrobées de jus, puisque ça va dégager un petit peu de jus. Hein, surtout, les aiguillettes de maintenant, elles sont un petit peu pleines d'eau aussi, oui. Parfois. Voilà, quand le poulet il est cuit, on arrête le feu et on va verser la crème de citron. Donc la crème fraîche et le citron par-dessus, et puis vous allez assaisonner si vous avez besoin. Donc vous goûtez, vous faites bien attention à goûter avec une petite cuillère, parce que si vous mettez votre doigt, vous allez vous brûler, parce que c'est quand même chaud. Vous allez voir que comme la crème, elle est froide, ça va faire un chaud-froid, donc vous mélangez bien avec une cuillère en bois, de façon à ce que ce soit bien homogène et que les aiguillettes soient bien enrobées de cette crème de citron. Et vous servez aussi sec. Vous essayez de réchauffer un petit peu pour que ça soit un petit peu plus chaud, parce que la crème est froide, mais sans faire de bulles. Surtout, il ne faut pas que ça boue, et c'est là que ça va tourner. Parce que si ça boue, et ben votre crème fraîche elle va se transformer en gras, et ce n'est pas le but qu'on recherche. On cherche vraiment quelque chose de crémeux et très, très agréable. Voilà, vous servez ça avec du riz, donc je vous donne pas la recette du riz, des courgettes sautées ou à la vapeur. On aurait pu faire un petit gratin de courgettes aussi avec. Vous pouvez mettre des carottes, ce que vous voulez, ce que vous avez envie, parce que c'est un plat qui se marie bien avec tout. Okay. Vous pouvez mettre des spaghettis, des tagliatelles, des pâtes fraîches, bien sûr. Voilà, alors moi je sais que les pâtes fraîches, c'est parmesan obligatoire. Moi, j'aime bien. Mais vous pouvez très bien le faire avec ça. Voilà. Alors, on parle souvent, Nathalie, des ingrédients. On utilise toujours dans la cuisine un ingrédient qu'on parle très, très peu, mais qu'on a dans toutes nos recettes, en moins en salé, on l'utilise. Et c'est le poivre. Et, ouais. Et j'aimerais que tu nous en parles de ce poivre.
Alors, le poivre, son nom vient du sanskrit pipali, devenu en grec peppery, puis en latin piper, La culture du poivrier est originaire de la côte ouest de l'Inde, là, sur les côtes de Malabar, dans l'état du Kerala, et a gagné d'autres pays d'Asie du Sud-Est, Madagascar et plus tard le Brésil. Son utilisation en Grèce daterait de l'épopée d'Alexandre le Grand. L'histoire antique du poivrier noir est souvent liée et confondue avec celle du poivrier long. Alors, les fruits secs de ce dernier ont été utilisés pour fabriquer des pipeaux. Les Romains se sont servis des deux espèces sans distinction. C'est la découverte du Nouveau Monde et des piments qui a fait disparaître l'utilisation du poivrier long. Certains piments, une fois secs, ressemblent aux fruits du poivrier long. Ceux-ci étaient plus faciles à cultiver en Europe. Au Moyen Âge, les épices comme le poivre étaient rares. La conquête d'Alexandrie en 642 par les Arabes marqua le début de leur commerce. Voilà pourquoi les épices les plus rares à l'époque, comme le poivre, furent utilisées comme monnaie d'échange. De là vient également l'expression « cher comme poivre », je ne connaissais pas. Ou encore « payé en espèces », ça tout le monde connaît, et « espèces », c'est les épices en fait. La richesse d'un noble pouvait être évaluée selon la quantité de poivre qu'il possédait. C'est ainsi que par la suite, les riches allemands furent surnommés « sacs de poivre ». Son prix était exorbitant dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, avec le développement du commerce des épices et l'augmentation de leur demande par la bourgeoisie européenne. Le prix du poivre en particulier a diminué dès cette période, la valeur totale de ses importations augmentant en volume mais restant constante en valeur. Le monopole de son commerce, tenu longtemps par l'Italie qui traitait avec les marchands arabes, a été l'une des raisons qui ont conduit les Portugais à chercher et à trouver une route maritime vers l'Inde. En 1498, Vasco de Gama devient le premier Européen dont les navires atteignent l'Inde après avoir contourné l'Afrique. Lorsque les marchands arabes de Kozhikode ont demandé à son messager ce qu'il était venu faire, il répondit « Nous cherchons des chrétiens et des épices ». À la suite du traité de Tordesillas en 1494, le Portugal venait de se faire accorder les droits exclusifs sur la moitié du monde, dont est issu le poivre noir. Il développa alors les comptoirs en étendant leur empire des Indes grâce à Afonso d'Albuquerque. Leur monopole dura pendant toute la première moitié du XVIe siècle, les anciens réseaux de commerce arabe et vénitien parvenant ensuite à contourner leur blocus, d'autant plus aisément que les Portugais occupaient plus d'hommes à garder les forteresses de leurs comptoirs qu'à être marins et qu'ils n'ont jamais réussi à prendre le contrôle du golfe d'Aden. Au XVIIe siècle, les Portugais perdirent la quasi-totalité de leur commerce du poivre dans l'océan Indien au profit des Néerlandais et des Anglais qui profitèrent de l'annexion du Portugal par l'Espagne entre 1580 et 1640. Les ports de la côte de Malabar en Inde firent commerce de poivre avec les Néerlandais à partir de la période 1661-1663. À partir du XVIe siècle, le poivre a également été cultivé à Java et Sumatra, en péninsule malaise et ailleurs en Asie du Sud-Est. Mais ces régions commerçaient principalement avec la Chine ou consommaient leur poivre localement. Le poivre était également cultivé à Madagascar.
Mon Dieu, quelle histoire!
C'est toute une histoire.
C'est incroyable quand même, il a quand même pas mal voyagé ce poivre.
Mais j'en ai vu beaucoup des arbres, des poivriers en Turquie.
Oui, écoute, on n'en a pas parlé. Moi, j'en ai vu quelques-uns aux différents pays que j'ai fait. Après, faudrait qu'un jour, on essaye dans notre jardin de faire du poivre. Peut-être qu'on peut y arriver.
Peut-être.
Bon, moi, j'ai rarement vu germer des graines de poivre. Donc, on verra. À faire des essais, pourquoi pas. On est en plein dans les cultures en ce moment. Ouais. C'est le moment de planter pour qu'on puisse avoir des belles récoltes fin juin, on va dire. Fin juin, début juillet. Voilà. Écoutez, moi, je vous propose qu'on se retrouve après une pause pour juste pour le dessert. À tout de suite.
You say you wanna taste them, bottle me up.
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors, nous revoici pour la troisième partie de notre émission, notre dessert. Et ce soir, j'ai eu envie de vous partager un cheesecake. Alors, c'est pas français, mais on va la faire un petit peu à la façon de Anne. Voilà, c'est un cheesecake. Moi, je l'ai appelé cheesecake parce qu'il y a du fromage dedans, il y a du cacao, du chocolat et du praliné. Donc, cheesecake choco-praliné. Alors, avant, Nathalie, tu pourrais nous dire, parce que le cheesecake, comme je viens de le dire, n'est pas français, tu nous dis un peu son origine au cheesecake.
Oui, le cheesecake, le cheesecake ou cheese, on peut le mettre en deux mots ou en un mot. C'est un gâteau au fromage, c'est pour ça qu'on dit cheese, c'est du fromage frais. C'est au Canada francophone, c'est une variété nord-américaine du gâteau au fromage. C'est un dessert sucré composé d'un mélange de fromage à la crème, d'œufs, de sucre et de parfum de vanille ou de citron sur une croûte de miettes de biscuit ou une génoise. Dérivé de certaines européennes, de recettes européennes similaires, deux recettes de cheesecake aux États-Unis trouvent leurs origines dans les quartiers des immigrants allemands et anglais, surtout à Philadelphie, à New York. Chez les Juifs et les Italiens à New York, ce que les Américains appellent aujourd'hui le New York cheesecake est en fait c'est un fromage industriel, fromage à pâte fraîche, salée, qui a dû remplacer le quark allemand. Ce cheesecake a été généralisé par les délicatesses juifs new-yorkais et peut se consommer avec un coulis de fruits rouges. La version italienne, elle, est à base de ricotta.
Alors, ben, merci Nat. Donc vous avez deux choses. Alors vous allez voir que la recette, là, c'est avec du fromage à tartiner. Voilà, donc c'est fromage frais. Le cheesecake en général, il est fait avec du fromage blanc. On peut le faire avec du fromage blanc.
Ouais.
Voilà, il n'est pas du tout à la vanille, le mien, et pas du tout au citron. Il est au chocolat et praliné.
Alors, ça
change. Oui. Moi, j'avais envie de chocolat. Là, puis c'est voilà, on a en manque de chocolat et le chocolat c'est plein de magnésium. Voilà, donc pour cette nouvelle saison, on a besoin de ça. Alors pour la croûte, donc je vous rappelle les ingrédients. Hein, donc ça va se passer en trois temps. Donc pour la croûte de chocolat, 250 g de sablé. Donc vous prenez les sablés bretons, vous pouvez prendre n'importe quel sablé. C'est ça l'idée, c'est varier les goûts. Et de faire, vous pouvez toujours faire le même dessert, mais en variant le sablé que vous allez y mettre. Donc 250 g de sablé, 40 g de cacao en poudre, 100 g de beurre, 25 g de sucre. Pour la crème, 600 g de fromage à tartiner. 120 g de crème fraîche épaisse entière, ça c'est important, il faut qu'elle se tienne quand même. 110 g de sucre, 15 g de fécule de maïs, 3 œufs, 250 g de chocolat praliné. Alors le chocolat praliné, vous allez en trouver dans les magasins spécialisés. J'en ai jamais vu.
Il y en a dans les grandes surfaces.
Dans les grandes surfaces,
ouais.
Voilà.
Dans tous les chocolats à cuisiner. Mm-hmm. En fait, maintenant, tu as tout et tu as le praliné.
Voilà, bah, écoutez, c'est très bien. Moi, je l'achète en magasin spécialisé. Voilà, bon, après, s'il y est, parce que je ne fais pas des grandes surfaces, je suis désolée. donc, pour la ganache, bah, il vous faudra 100 g de chocolat corsé. Donc, j'ai mis 64%, mais si vous trouvez un chocolat un peu plus fort ou moins fort, vous pouvez l'utiliser. Ça changera le goût, c'est tout. C'est voilà. Vous aurez besoin de 100 g de crème fraîche liquide. Et puis, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un mixeur, d'un moule à fond amovible. Donc encore une fois, un cercle, hein, ça peut être bien. Mais c'est un gros, gros cercle. C'est pas un cercle à tarte. Hein, puisque vous avez quand même plusieurs dimensions, puisqu'on va monter des couches. Voilà. Et puis, on va avoir besoin de 3 saladiers, d'une cuillère en bois, d'un fouet et d'une casserole. Il faut compter à peu près 20 minutes de préparation et il y aura 50 minutes de cuisson. Et par contre, pensez à 4 heures de repos. Donc, moi, je préfère faire ça la veille
là, oui.
Comme ça, il a bien pris, mon chocolat est top et même mon cheesecake, il est top. Et comme ça, j'ai le temps de préparer peut-être le repas, mais vous pouvez le servir aussi avec une petite crème anglaise ou un petit coulis de fruits rouges, ça peut être sympa. Voilà, donc ça vous laisse le temps de préparer les choses. Alors, dans un premier temps, on va chauffer le four à 180 degrés, donc je vous rappelle, le thermostat, c'est à peu près 6-7. Et puis ensuite, vous allez mixer. Donc, moi, je le fais au pilon parce que j'aime bien, parce que ça prend, je prends mon temps et tout. Mais mixer, c'est aussi bien. Mais il ne faut pas que ça soit en poudre, ça soit en morceaux quand même. Hein. En petits morceaux, mais pas en poudre.
Ah, pas
donc,
en poudre,
ah,
d'accord.
Ah non, il ne faut pas que ça soit en poudre. Donc, vous allez mixer donc, avec le cacao, le sucre, et vous allez ajouter le beurre fondu. Vous mixez toujours, donc c'est pour ça qu'il faut mixer tout doucement, de façon à ce que vous n'ayez pas de la poudre. Hein. Donc, vous rajoutez donc, ce que je disais à l'instant, le beurre fondu. Vous continuez à mixer. Et une fois que votre mélange il est bien fait, ben, vous allez le mettre dans votre moule. Alors, le moule à fond amovible, si vous n'avez que le cercle, vous le mettez sur une plaque avec une feuille de cuisson dessus. Si vous avez le fond qui va en dessous, ben, c'est encore mieux. Vous mettez le fond et vous versez votre préparation à l'intérieur. Vous tassez bien, et l'idée, c'est de faire remonter sur 4 cm en haut, comme si c'était une pâte à tarte. Vous voyez un petit peu l'idée ?
Comme si c'était un fond de tarte.
Voilà,
en fait.
Comme
faut
si
que ça remonte un peu sur
exactement.
Les bords.
Exactement. Donc il faut que vous en ayez, je dirais, un petit centimètre sur le milieu, tout autour, et puis de faire remonter cette pâte, hein, puisque quand ça va durcir, puisque le beurre fondu va durcir et va s'imprégner du biscuit, et ben ça va vous faire le moule. Voilà. Donc là, on aura notre pâte à tarte, en fin de compte. C'est ni plus ni moins une pâte à tarte qui est un peu reconstituée, mais c'est une pâte à tarte. C'est assez amusant à faire et c'est super sympa à faire. Faites ça avec une cuillère, hein. Vous prenez pas la tête, vous roulez vers du milieu jusqu'au rebord de votre moule et vous l'étalez assez facilement. Et puis vous allez enfourner et cuire pendant 10 minutes. À 180 degrés, et puis vous allez le sortir, une fois que c'est cuit, pendant 10 minutes, le laisser tiédir, et là on va baisser le four à 140 degrés. Donc vraiment, on a besoin d'un four pas très chaud, d'accord ? Donc 140 degrés. Et on va faire fondre au bain-marie le chocolat praliné. Alors, vous avez plusieurs solutions. Ou le faire fondre au bain-marie. Donc, je vous rappelle, c'est un saladier avec une casserole et de l'eau. Et que le saladier doit toucher l'eau de façon à faire fondre le chocolat. Si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez faire la façon micro-ondes. Mais vous faites attention à la puissance. Et surtout, vous couvrez le récipient dans lequel vous avez fait votre chocolat. Parce que sinon, quand on ne couvre pas l'ingrédient au micro-ondes, en fin de compte, ça ne va pas être homogène au niveau du réchauffement. Voilà, donc c'est pour ça que des cloches existent.
D'accord.
Une fois que c'est fondu, on va mettre la crème. On va mélanger dans un saladier avec le fouet et puis sans fouet, le fromage frais, donc avec une cuillère en bois ou une maryse, hein, tout simplement. On va donc mélanger le fromage frais à la crème, on rajoute le sucre, la fécule de maïs, et puis on va mettre les œufs. Et tout ça, on va le mélanger délicatement, gentiment. Et puis, une fois que tout est bien mélangé et bien homogène, vous allez y ajouter votre chocolat praliné fondu. Voilà. Et tout ça, vous allez remuer gentiment que tout soit bien mélangé. En fin de compte, il faut que vos œufs, votre fécule, votre sucre et votre chocolat soient bien mélangés ensemble. Une fois votre préparation est homogène et super lisse, eh bien vous allez pouvoir la verser sur le fond de votre biscuit. On est d'accord, hein, le biscuit, on n'a pas enlevé le cercle. D'accord ? Et on va remettre au four pendant 50 minutes à 140 degrés. Et puis, au bout de ces 50 minutes, donc c'est pour ça qu'il faut que ça cuise tout doucement, sans trop buller. Donc c'est pour ça qu'on a baissé la température. On laisse complètement refroidir dans le four. Le four entrouvert, vous pouvez l'ouvrir en grand, il faut qu'il refroidisse gentiment. Et puis, vous allez, une fois qu'il est refroidi, vous allez le mettre 4 heures au frais. Voilà. Une fois que les 4 heures sont passées, vous avez fait ça la veille, c'est bien de faire ça la veille. Alors, moi, si j'ai un conseil, si vous faites ça la veille, vous filmez.
Oui, bien sûr.
Vous filmez votre cercle pour la simple raison, c'est que le chocolat a une particularité, c'est qu'il prend le goût du frigo. Donc, si vous avez un fromage juste à côté qui sent, votre chocolat, il va avoir l'odeur du fromage, ouais. Et plus du chocolat praliné. Ça serait quand même un petit peu dommage. Voilà, donc filmez de toute manière, c'est important de filmer vos aliments. Et encore une fois, vous ne mettez pas chaud votre plat dans le frigo. Sinon, ça va abîmer les autres ingrédients que vous avez dans votre frigo.
Et le frigo aussi. C'est pas bon pour les...
Pour les résistances. Voilà, vous pouvez le mettre un petit peu dehors ou dans une pièce un peu froide pour le laisser refroidir tranquillement. Et après, vous le mettez une fois froid, vous le mettez 4 heures au frigo. Pendant ce temps-là, vous pouvez préparer, mais voilà, on ne sait pas pendant 4 heures qu'on va préparer la ganache. Au bout de 4 heures, vous allez commencer, donc on va commencer à préparer la ganache. Pour cela, on va hacher en petits morceaux le chocolat corsé. Donc c'est du chocolat tablette, hein, vous le trouvez en grande surface ou en magasin spécialisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au même titre que le chocolat praliné. Et puis, on va faire chauffer la... Donc, c'est une ganache. On a déjà l'habitude de faire ces ganaches, puisqu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, on va chauffer la crème dans une casserole. Et quand elle bout, cette fois-là, elle bout, puisqu'elle n'est pas mélangée à autre chose, on va verser le chocolat qui est haché dans... le chocolat haché dans un saladier. Hein, donc, en fin de compte, on ne le met pas dans la casserole de crème, mais on met le chocolat dans un saladier et on verse la crème très chaude dessus. Et puis, on va laisser reposer 30 secondes.
On ne mélange pas. On attend.
On attend. On laisse reposer 30 secondes. Et là, après 30 secondes, on mélange. Donc là, on est sûr que le chocolat, si vous l'avez bien, bien haché, ben, on est sûr que le chocolat, il va se fondre et que votre ganache sera bien lisse.
D'accord.
C'est pour ça qu'il faut qu'elle boue, notre crème, et qu'elle repose sur le chocolat. Et quand vos 4 heures sont passées, votre gâteau il est froid, et ben, votre ganache, elle est encore un peu chaude. Donc, vous allez verser par-dessus votre cheesecake, cette ganache. Et elle va légèrement durcir, hein, puisque à un moment donné, elle va durcir,
ouais.
Hein, puisque le chocolat va se redurcir avec la crème fraîche. Et là, vous parsemez de copeaux de bois, vous faites à la râpe. Moi, j'aime bien faire...
Copeaux de chocolat, peut-être.
Oui, j'ai dit copeaux de bois, non. Je suis partie là dans mes délires. Copeaux de chocolat, moi j'aime bien faire ça à la râpe. Et ce que j'aime bien faire, c'est mélange de chocolat blanc, chocolat noir. Voilà, donc vous mélangez, vous faites vos copeaux et puis vous servez. Si vous trouvez que votre gâteau est un peu, votre ganache au-dessus est un peu trop liquide, vous la passez au frigo, vous gardez au frigo le temps de le servir. Et puis, au moment de servir, vous mettez vos copeaux de chocolat blanc, de chocolat, voilà, plusieurs. Mettez des trois couleurs de chocolat différentes. Ça peut être sympa. L'astuce pour finir, votre fromage frais, faut le sortir à l'avance, de façon à ce qu'il ne soit pas compact et qu'il puisse être souple et qu'on puisse bien le mélanger et sans le fouetter et sans abîmer la texture. Il faut qu'il soit un peu crémeux et épais. Et bien voilà notre recette délicieuse. Alors je vous propose une courte pause et puis on se retrouve tout à l'heure. Nathalie va nous expliquer quelque chose.
Salut, c'est Adé sur Infini Radio.
Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé, je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore. Je vole encore, mais je veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors Nathalie, j'aimerais que tu nous parles du praliné. Parce que c'est, on en parle à notre recette, mais on ne sait pas forcément d'où ça vient.
Qu'est-ce que le praliné ? Le praliné, c'est une pâte composée de pralin. Alors le pralin, c'est un mélange de sucre, d'amandes ou de noisettes, d'un peu de vanille, de cacao ou de beurre de cacao et enrobé de chocolat au lait. On appelle plus généralement pâte de praliné ou pâte pralinée un mélange de noisettes ou d'amandes, de sucre et de chocolat broyé, plus ou moins finement, dont on fourre les confiseries de chocolat, éventuellement au lait. Le mot praline, ça s'écrivait praseline, apparaît en 1662 et devient praliné en 1680. Il proviendrait du nom de César de Choiseul, du Plessis Pralin, ambassadeur de Louis XIII, qui aurait demandé à son cuisinier Clément Lassagne d'inventer une gourmandise. En voyant un de ses commis racler un reste de sucre fondu, Lassagne eut l'idée de la praline. Le maréchal de Choiseul se retira à Montargis où il fonda la maison de la praline.
Merci Nath. Alors moi j'ai juste une petite astuce là, qui me vient à l'idée. Bien souvent ça va être l'époque des pièces montées et on met du nougat.
Ouais.
Nougat dur, la plupart des gens, c'est super bon, la plupart des gens le laissent, ça casse les dents, et la plupart du temps, ça finit à la poubelle. Hein.
C'est dommage.
Parce qu'il y en a trop.
Envoyez-les-moi.
Alors, vous nous les envoyez à la radio, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous donne une petite astuce. On est d'accord que la nougatine, c'est une base de sucre, d'amandes et de noisettes.
Ouais.
Donc, vous broyez votre nougatine, vous la broyez avec du chocolat, vous rajoutez un petit peu de crème fraîche et vous avez votre pralin qui est fait.
Bah oui.
Voilà, tout simplement. Donc, arrêtez de gâcher. Tout se conserve et la nougatine se conserve très très bien et très longtemps puisque c'est du sucre et que c'est de l'amande et des noisettes. Donc vous pouvez la laisser à l'air, bien sec, et vous la mettez dans une boîte hermétique, et vous allez voir, ça va tenir. Et quand vous en avez besoin, vous la pilez, vous la broyez dans le mixeur, hein, faut avoir un bon mixeur, et vous vous en servez pour vous faire des tiramisu de feu de Dieu, je vous assure. Moi j'ai fait ça une fois, plusieurs fois, enfin dès qu'il y a de la nougatine quelque part, je la récupère et je la garde vraiment. Faites ça, c'est vraiment super bon. Ben voilà, on arrive à la fin de notre émission. Je pourrais parler très longtemps de toutes les petites astuces qu'il peut y avoir avec les petits restes. Vous pourrez te retrouver dans nos podcast et sur notre site Facebook. Je sais, Théo, il va me tirer les oreilles parce que je n'arrive pas à prononcer certains mots. Voilà, toutes nos recettes sont mises en ligne. Voilà, n'oubliez pas de partager, de faire et de refaire en famille et entre amis toutes ces recettes. Amusez-vous, soyez créatifs. Et puis, si jamais un jour vous avez une recette, vous avez envie qu'on en parle
bien
à
sûr,
la radio,
un message.
On étudie la chose, je teste à la maison les recettes et je vous donne en direct le développement de la recette et on partage tout ça ensemble. Voilà, on vous souhaite un bon appétit.
Très bon appétit.
Voilà, une excellente soirée.
Ouais.
Surtout, vous prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Et puis, bonne soirée. À la semaine prochaine.
Bonne soirée.